Les dessous de l'Infox. Grégory Genevrier.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les dessous de l'Infox. Deux semaines de discussion et toujours pas d'accord, la COP16 pourrait jouer les prolongations ce soir en Colombie. Cette conférence internationale sur la nature et les inondations terribles en Espagne ont placé la biodiversité et le réchauffement climatique au cœur de l'actualité. Un coup de projecteur exploité par les activistes climato-sceptiques. Malgré un dérèglement de plus en plus palpable, leur discours gagne du terrain. Alors comment expliquer ce phénomène? Quelles sont les conséquences sur les décisions politiques? On en parle avec notre invité, Albin Wagner, linguiste spécialisé en communication environnementale. Qui de Kamala Harris ou de Donald Trump deviendra le 47e président des États-Unis? Le vote prévu mardi s'annonce particulièrement serré. Un scrutin dont l'intégrité est déjà remise en question à coups d'infox, nous dira Olivier Four dans sa chronique. Et puis comment Elon Musk, le patron de X, est-il devenu un champion de la désinformation au service de Donald Trump? On en parle avec Quang Pham des observateurs de France 24. Mais avant ça, place à l'invité.
Parle.
Bonjour Albin Wagner.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous êtes enseignant-chercheur en analyse de discours spécialisé en communication environnementale. Votre dernier ouvrage, Blablabla, en finir avec le bavardage climatique aux éditions Robert, porte sur les différents récits autour du réchauffement du climat. Vous vous penchez notamment sur les discours climato-sceptiques. Cette expression, bavardage climatique, qu'est-ce qu'elle signifie exactement, Albin Wagner ?
Elle signifie qu'en réalité, on se retrouve face à énormément de récits en fait, autour du climat, de l'écologie et surtout des différentes transitions qu'on devrait mettre en œuvre pour arriver à, on va dire, limiter le réchauffement climatique ou en tout cas s'adapter à ses conséquences. Et au milieu de tout ça, c'est un petit peu compliqué d'y voir clair le plus souvent parce qu'on a l'impression qu'il y a plusieurs solutions possibles, plusieurs discours possibles et souvent le fait qu'il y ait autant de récits, ça paralyse un peu et ça peut confiner à l'inaction par exemple. Donc c'est un petit souci.
Ce que l'on comprend dès les premières lignes de votre livre, c'est que notre façon de parler reflète la façon dont nous voyons le monde. À quel point le choix des mots que l'on utilise est-il important quand on parle d'un phénomène aussi majeur que le réchauffement climatique ?
Alors les mots sont hyper importants pour une raison très simple, c'est qu'effectivement elles véhiculent notre manière de voir les choses, notre rapport aux choses. Et typiquement par exemple, quand on parle d'environnement, ce mot-là il est hyper intéressant parce que environner, c'est des choses qui sont autour de nous. Comme si nous on n'était pas dedans en fait. Comme si on restait en fait au centre de tout. Et donc en fait l'environnement déjà est un mot problématique parce qu'en réalité on est totalement interconnecté, totalement dépendant de cet environnement, de qu'on peut appeler la nature, le système Terre, la planète, enfin ce que vous voulez. Et donc déjà là, on voit bien qu'il y a un premier problème. Et donc évidemment, plus on va s'intéresser aux mots autour de la transition écologique ou du changement climatique, plus on va voir qu'en fait, ces mots-là sont le reflet d'une manière en fait, d'organiser notre société et notre économie aussi.
Un des exemples que vous donnez dans votre livre, c'est l'exemple des mauvaises herbes.
Oui, tout à fait. En fait, déjà là, on est sur un rapport vachement moral aux mots, donc c'est assez intéressant. Comme s'il y avait des bonnes et des mauvaises espèces, des espèces foncièrement nocives qui nous voulaient du mal, et des espèces donc bonnes, ou en tout cas qui nous seraient plutôt bénéfiques. Et ça, c'est évidemment un souci, puisque les espèces en soi, la vie en soi n'est pas ni bonne ni mauvaise. Elle est, elle existe ou elle n'existe pas. Et ces espèces, en plus de ça, en fait, on voit bien qu'elles ont plein d'intérêts. Alors, soit elles ont des vertus effectivement thérapeutiques ou autres, ou tout simplement elles ont aussi le droit d'exister en tant qu'espèce, en tant que plante. Et le problème, c'est que ça montre bien aussi que notre idéal du jardin, par exemple, c'est un idéal en fait de maîtrise de la nature, de maîtrise de l'environnement, pour des raisons esthétiques ou pour des raisons de commodité ou de confort. Donc là, la mauvaise herbe, elle vient un petit peu faire irruption là-dedans, elle fait rupture. Et puis en même temps, la mauvaise herbe, quelque part, c'est aussi une source d'espoir, parce qu'on voit bien que ces mauvaises herbes, très souvent, elles vont pousser, par exemple, dans du béton, enfin dans des endroits où rien ne pousse. Donc on voit bien aussi que là, cette notion de contrôle sur les choses, sur les espèces, elle est très nettement présente encore une fois.
Et ce que vous nous dites aussi, c'est que les mots qu'on utilise, c'est des récits qu'on se raconte tous dans la société ?
Oui, tout à fait, bien sûr, on se raconte des récits à propos de nous-mêmes, des autres, enfin, on en a besoin. L'homme est un animal en fait purement narratif, hein, du point de vue anthropologique. Les récits, on en a besoin tout petit. Nos parents nous racontent des histoires, nous racontent des contes, quelles que soient les sociétés orales ou écrites, quelles qu'aient été les sociétés sur Terre, hein, avant nous. nous ou après nous, il y a toujours le besoin de se raconter des histoires sur la nature, les autres, le monde. Ça structure notre rapport en fait au cosmos, entre les hommes et les femmes, les relations aux autres. Enfin, on a besoin justement de ces histoires-là pour comprendre et donner du sens. Et donc évidemment, de ce fait-là, les mots qu'on choisit, les discours qu'on va porter ne sont jamais innocents.
Vous nous dites que si nous peinons, je cite, à prendre les bonnes décisions face au changement climatique, c'est parce que nous n'avons pas encore trouvé de récit suffisamment fédérateur. Comment expliquer cet échec ?
Enfin, je pense que la nuance, justement, je pense que je réécrirais un petit peu la phrase différemment aujourd'hui. Je dirais pas un récit fédérateur, mais des récits fédérateurs. Je pense que l'échec, il est lié au fait qu'on a un modèle dominant. C'est un système de pensée qui, depuis, on va dire, allez, 150-200 ans, fonctionne de manière très nette et qui organise notre vie politique, économique et sociale. Et ce modèle-là, en fait, nous raconte que nous sommes au-dessus de la nature, que nous pouvons l'exploiter, en extraire les ressources, par d'ailleurs de ressources naturelles, donc comme si la nature était d'abord faite pour nous. Donc ça veut dire que déjà, on a une manière de voir les choses qui est vraiment liée à tout ça. Et là, d'un seul coup, on nous demande en fait de changer de paradigme, on nous demande de changer notre manière de voir la nature, de voir les espèces, etc., de voir le vivant. Et ça, c'est excessivement compliqué parce que notre manière de voir en fait la nature, elle est en fait ancrée en nous depuis très 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 longtemps en réalité. De ce point de vue-là, on n'a pas encore trouvé la bonne solution pour se raconter une autre histoire à propos du monde et de notre place dans le monde surtout. Et c'est ce qui va être problématique, je pense, dans les quelques années.
C'est un changement trop brutal en quelque sorte.
C'est un changement qui ne mériterait... en fait, on n'a pas le temps, mais c'est un changement qui, en général, demande plusieurs générations, en fait, pour changer un petit peu d'état d'esprit. Et on voit bien qu'on n'y arrive pas forcément, parce que même les personnes qui sont militantes, en fait, ont encore ce rapport parfois un petit peu paradoxal à la nature, et c'est normal, hein, je ne jette pas de pierre. Et donc, il nous faut du temps pour quelque chose, en fait, qui est en fait très brutal à l'échelle de l'humanité, puisque le changement climatique, on le voit, à l'échelle du vivant, d'ailleurs, en général, c'est quelque chose qui s'accélère de plus en plus, avec une espèce de courbe exponentielle et des effets qu'on imaginait venir dans 30, 40 ans qui arrivent tout de suite. Donc, voilà, on n'a pas le temps, et il va falloir pourtant accélérer sur cette question-là aussi, parce que les récits, c'est pas juste des imaginaires, ce sont ensuite des actions concrètes, des structures sociales, des rapports aux autres, des incarnations. Donc c'est très concret en fait en réalité.
Oui, parce que c'est ce que j'allais vous demander. Enfin, on a tous les rapports des experts du GIEC, le consensus sur l'origine humaine du réchauffement climatique n'est plus approuvé aujourd'hui, la multiplication des événements météo extrêmes. Tout ça, ça ne suffit pas à convaincre de l'urgence d'agir, Albin Wagner ?
Ben, ça ne suffit pas parce qu'en fait, les chiffres ne suffisent pas. Regardez, si vous prenez l'exemple d'une personne qui essaie d'arrêter de fumer. Moi, j'étais fumeur fut un temps, donc je sais de quoi je parle. Vous n'arrêtez pas de fumer parce qu'on vous donne des chiffres sur le cancer du poumon ou le cancer de la gorge. Ça vous fait pas arrêter de fumer. Vous dites oui, bon, c'est bon, ça arrivera aux autres, mais pas à moi. C'est un peu justement le climato-dénialisme fonctionne un peu comme ça aussi. Et en fait, finalement, ce qui va vous faire arrêter de fumer, souvent, c'est un événement dans votre vie. C'est une rupture, c'est une naissance, des choses en fait émotionnelles, expérientielles. Et en fait, finalement, ce qu'il faudrait, c'est peut-être ça. Le problème, c'est que ce sont des déclencheurs souvent très brutaux, un peu catastrophiques. Et ce qu'on peut voir, c'est que de ce point de vue-là, les chiffres n'arrivent pas à convaincre. Les chiffres, ce sont des preuves qui permettent de motiver l'action. Mais il n'y a pas que ça. On sait que les émotions, par exemple, du point de vue cognitif, sont des états motivationnels. Ça veut dire que c'est par les émotions, l'expérience, qu'on va pouvoir en fait, se motiver à changer des choses. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, je pense, conjointement. Les chiffres nous aident, mais ils sont tout seuls complètement insuffisants.
Vous pointez aussi dans votre livre l'importance de figures pour incarner et raconter cette urgence climatique. L'une de ces figures, c'est évidemment la militante suédoise Greta Thunberg. Le titre de votre livre, justement, Blablabla, fait d'ailleurs directement référence à l'un de ses célèbres discours. C'était durant le sommet des jeunes sur le changement climatique. On l'écoute.
Build back better. Reconstruire mieux, blablabla. Économie verte, blablabla. Zéro émission nette en 2050, blablabla. Voilà ce que nous entendons de la part de nos soi-disant dirigeants. Des mots qui sonnent bien, mais qui jusqu'ici n'ont débouché sur aucune action. Nos espoirs et nos rêves se noient dans leurs paroles et leurs promesses. Bien sûr, nous avons besoin d'un dialogue constructif, mais cela fait maintenant 30 ans qu'ils font du blabla. Et où cela nous a-t-il mené ?
Cette déclaration qui remonte à septembre 2021, est-ce qu'on peut dire qu'elle est toujours d'actualité ?
Plus que jamais, hélas, puisqu'on voit bien que maintenant, visiblement, les actions... Enfin, il y a une étude qui vient de sortir, je crois, cette semaine ou la semaine dernière, et on voit qu'en fait, les actions des pays, en tout cas engagés pour la cause climatique, finalement, ne sont pas suffisantes, et que si on continue sur la lancée dans laquelle on on est, on arriverait à un réchauffement de plus 3,1 au niveau de la planète, au niveau global. En France, ce sera donc plus 4 degrés. Enfin, faut s'imaginer que là, pour le coup, le changement de paradigme va nous arriver droit dans la figure sans même qu'on ait besoin de réfléchir ou de se poser la question. Donc, en fait, effectivement, on a pour l'instant beaucoup de discours, beaucoup de mots, mais c'est pour ça que je dis que les mots, ça s'incarne. Les mots, c'est aussi des actions concrètes. Et pour l'instant, en termes d'actions concrètes, ben, on peut faire bien mieux que ça. La difficulté, c'est que ben, on se retrouve aussi piégé par le fait qu'on est en démocratie. C'est bizarre hein, comme critique, hein, parce que je suis un démocrate, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais en démocratie, on vote aussi par rapport à ce qu'on nous donne comme information et par rapport à nos intérêts. Et on voit bien que pour pouvoir en fait faire face au changement climatique, il faudrait une série d'actions très contraignantes. Et j'imagine mal une population spontanément se dire ben, on va se contraindre et on va voter massivement pour un candidat qui va nous promettre, en fait, ou une candidate d'ailleurs, qui va nous promettre finalement ben, de la sobriété économique, d'acheter moins, de manger différemment. C'est quand même très très compliqué de ce point de vue-là. Et donc on voit bien que là, on a encore une difficulté à trouver en fait, la bonne astuce ou les bons leviers pour se mettre en action de manière bien plus ambitieuse que cela.
Aujourd'hui, les discours climato-sceptiques sont encore omniprésents sur les réseaux sociaux ou même dans l'espace public. On l'a vu ces derniers jours en pleine COP16 biodiversité en Colombie. Ces discours ont-ils une responsabilité, un rôle dans cette absence de discours fédérateur aujourd'hui ?
Disons qu'ils participent à ces freins, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne sont pas forcément climato-sceptiques ou climato-dénialistes, comme on dit aussi, mais qui vont se dire qu'il y a tellement de choses qu'on entend dans les médias, des gens qui disent qu'il n'y a pas de problème avec le changement climatique, ce sont les climato-sceptiques, et d'autres qui disent qu'il y a un problème, ce sont les militants, les activistes, les scientifiques. Au final, on se dit souvent, parfois, on a tendance à se dire, bah, la vérité est sans doute entre les deux. Or, en fait, on a des registres de paroles complètement différents, c'est-à-dire que climato-sceptique ne se base pas sur la science, mais sur une opinion. Un scientifique, lui, se base sur des observations qu'on peut reproduire, répliquer et vérifier. Et là, en fait, on a aussi un problème au niveau démocratique, c'est-à-dire que toutes les paroles se valent, quelles qu'elles soient. Et au milieu de tout ça, les citoyens, parfois, qui ne sont pas très bien informés ou qui ont d'autres choses en fait, à faire de leur vie, parce qu'on a aussi d'autres urgences à traiter au niveau individuel, ou familial ou autre, ben, en fait, se disent, bon, ben, si on a autant d'avis différents, c'est peut-être que quelque part, pour faire quelque chose, mais pas tant que ça. Donc en fait, les climato-sceptiques servent à brouiller les cartes et à retarder l'action et un petit peu à parasiter, on va dire, les débats publics en instillant le doute. C'est-à-dire que les gens vont forcément être dans le déni et vont se dire, bon, finalement, est-ce qu'on sait vraiment ? Et ça, c'est évidemment extrêmement dangereux.
Ces discours climato-sceptiques, vous les observez depuis plusieurs années. Maintenant, est-ce que vous avez constaté des évolutions notoires ?
Oui, en fait, on a des discours climato-sceptiques plutôt dénialistes et surtout qui sont le fait des mêmes sphères toujours, hein, ultra-conservatrices et réactionnaires. Et souvent, ces sphères-là sont aussi très réactionnaires au niveau social et sociétal. Donc, on va être contre le climat et en même temps, on va être contre les droits des minorités, etc. Donc, en fait, en réalité, c'est pas simplement la question du climat ou de l'écologie, c'est une vision de la société, une vision de la politique, c'est en fait l'ancien monde qui se défend tout simplement. Et ce sont des gens qui souhaitent revenir quelque part au XXe siècle, sauf qu'on est dans le XXIe de plein pied, et qu'en fait il nous faut justement lire les événements du XXIe siècle avec les lunettes du XXIe siècle, et pas celles du XXe.
Parce que on a l'impression que leur discours est plus tellement dans la négation du réchauffement, mais plus dans la critique des experts du GIEC, dans la remise en question des actions à entreprendre.
Exactement, c'est ça l'idée, c'est de en fait jeter le doute, toujours, on jette le doute, c'est la fabrique du doute, c'est exactement ça. Et donc on va expliquer que les scientifiques finalement ont des intérêts à nous dire autre chose, que certains scientifiques sont engagés, donc peut-être que leurs données ne sont pas bonnes, que en fait les scientifiques sont toujours trop alarmistes et qu'en fait au final c'est pas si grave que ça, que c'est peut-être une question aussi de pourcentage et qu'en fait on ne sait pas, parce qu'en fait on essaie de faire des projections, ce qui est vrai, on fait des projections pour savoir quel sera le climat de la Terre d'ici 10, 20, 30, 50 ans, et en fait à chaque fois qu'on fait d'autres mesures, on se rend compte que c'est pire que ce qu'on imaginait. Donc cette évolution de la science, puisque la science elle évolue aussi par tâtonnement, par preuve, par avancées successives, ben, ces gens-là vont jeter le doute sur la science en général. D'ailleurs, ça fait beaucoup de mal aussi à nos sociétés, c'est qu'au final, ça jette le discrédit sur tout un ensemble de la sphère du savoir. Et ça, c'est évidemment très, très, très problématique.
Et alors, comment est-ce qu'on explique le succès de ces discours climato-sceptiques ?
On a peur, tout simplement. On préfère aussi se rassurer. On a besoin de doudou, hein, socialement parlant. Et donc, se dire que finalement, ce n'est pas si grave et qu'il n'y a pas de danger, bah, c'est plus rassurant que de se dire qu'il y a un danger imminent. Enfin, c'est humain. Et donc, en fait, le déni, parce qu'on parle de climato-dénialisme, le déni, c'est une des premières phases du deuil. Il ne faut pas l'oublier. Il faut qu'on fasse le deuil d'un ancien monde, en fait. En réalité, d'un monde qui est en train de s'arrêter, de changer, de se terminer. Et en fait, bah, le premier réflexe quand on doit faire le deuil de quelque chose, c'est le déni. Et le climato-scepticisme sert à ça. Sauf qu'en fait, on s'installe dans le déni. Et là, ça devient compliqué parce qu'il faut passer à d'autres phases aussi derrière.
J'utilise un terme que vous utilisez dans votre livre, mais si on parle d'un marché des discours, on peut dire que le discours climato-sceptique est aujourd'hui plus séduisant que le discours scientifique.
Je sais pas. Oui, il est plus séduisant parce qu'il parle aux émotions. Il parle à l'expérience, c'est ce que j'expliquais, je pense, tout à l'heure. J'essayais en tout cas de le dire, mais c'est qu'en fait, les chiffres seuls ne suffisent pas. Et le GIEC, son rôle, ce n'est pas de faire de l'émotion ou de l'expérience. Le GIEC, son rôle, c'est de donner des éléments d'information scientifique pour permettre aux décideurs, donc politiques, économiques, quels qu'ils soient, de prendre des décisions adéquates. Et donc, en fait, quelque part, le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas dans le camp, entre guillemets, scientifique, des gens qui vont porter des récits d'émotions ou d'expériences qui peuvent peut-être aussi mobiliser le plus grand nombre. On a des activistes et des militants, et il en faut, et c'est excessivement important tout le travail qu'ils font au quotidien pour pouvoir faire en sorte, en tout cas, que la cause climatique soit entendue politiquement. Mais en fait, il y a des gens pour lesquels le militantisme est un repoussoir, en fait, ça leur fait peur, et donc il faut trouver d'autres manières de les toucher. Et pour l'instant, ces gens-là, je pense, en tout cas, le climato-scepticisme a des outils plus performants pour les atteindre, et donc on a effectivement un petit souci là-dessus.
L'environnement, le climat sont, je reprends vos mots, des terrains de guerre narrative. Une guerre, ça sous-entend qu'on se défend, mais qu'on attaque aussi. Alors, est-ce que pour gagner cette bataille, il faut jouer avec les mêmes leviers émotionnels, par exemple, que les climato-sceptiques ?
Ben peut-être, en fait, tout simplement. Je pense qu'il faut aussi être aussi pragmatique que ça. C'est pas être pragmatique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonctionne pour les êtres humains ? Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la dimension anthropologique de l'affaire. Et de ce point de vue-là, on sait que cognitivement, affectivement, voilà, il y a des leviers très importants pour être mobilisé pour une cause. Typiquement, par exemple, ça a été mesuré largement, pour les personnes qui sont racistes, plus vous les mettez en lien, tout simplement avec des personnes d'autres couleurs de peau, d'autres religions, etc., plus finalement ce racisme va se résorber parce qu'ils seront tout simplement, ils se rendront compte qu'en face, ils ont des êtres humains comme eux. Alors voilà, avec d'autres manières de vivre, certes, mais qui partagent finalement les mêmes plaisirs, les mêmes joies, les mêmes peines. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Et là, on retrouve aussi cette dimension d'expérience. Et il faudrait trouver peut-être aussi des leviers similaires pour l'écologie. La difficulté, c'est qu'en fait, on a aussi des discours très polarisants et les réseaux sociaux ne nous aident pas beaucoup. C'est-à-dire que soit on est pour, soit on est contre. Et en général, soit on est totalement pour à 150%, soit on est totalement contre à 150%. Donc le doute et la nuance sont très compliqués aussi à installer. Et puis pour l'instant, ben voilà, on a en gros soit les climato-sceptiques d'un côté, donc les militants anti-climat, et soit les militants activistes pro-climat, pro-écologie de l'autre. Et en fait, au milieu de tout ça, il y a tout un ensemble de discours qu'on n'entend pas, qu'on n'entend plus, et dont les gens ont besoin en réalité, parce qu'on ne peut pas leur demander de choisir soit pour des militants activistes, parce qu'en fait, tout le monde n'a pas cette vocation-là, et ce n'est pas grave, soit pour des marchands de doute ou des marchands de conspiration, qui sont d'abord des dangers pour la démocratie et pour l'ordre économique et social, quoi.
Donc c'est cette majorité silencieuse qu'il faut aller convaincre avec un discours plus percutant et plus touchant.
Exactement, c'est monsieur, madame, tout le monde. En fait, c'est nos voisins, nos amis, nos collègues de boulot. Enfin, c'est tout le monde, littéralement. Je pense qu'on a besoin de tout le monde sur le pont. On a besoin de tout le monde, mais pas n'importe comment non plus. Et donc, il faut trouver vraiment les bons leviers, les bonnes actions, les bons moyens pour pouvoir, en fait, permettre à chacun de se dire, OK, on a un vrai souci. Et en fait, comment est-ce qu'on peut s'entraider les uns les autres pour arriver à sauvegarder nos emplois, parce qu'in fine, c'est ça, sauvegarder nos maisons. Je pense que les gens qui sont dans le nord de la France ont bien compris l'automne dernier. Donc, c'est très concret, en fait. Ça attaque vraiment nos emplois, nos maisons, nos familles. Nos modes de vie, et donc ça va quand même, ça doit motiver nos gestes et nos décisions, je pense.
Parce que ça pose la question des actions radicales, de la radicalité. Est-ce qu'on peut dire que la radicalité fonctionne quand on parle d'action climatique, de sensibilisation ?
Elle fonctionne toujours, ça a été aussi prouvé scientifiquement parlant. La radicalité fonctionne pour pouvoir porter des sujets de société au centre du débat démocratique. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que quoi qu'on pense des actions des militants écologistes, ces actions sont importantes pour porter une parole. Maintenant, ensuite, ces actions souvent vont inviter les gens à se positionner en se disant finalement, je valide pas le mode d'action, mais je comprends ce qu'ils ont voulu dire. Et donc dans ce cas-là, on peut initier un débat plus apaisé derrière. Donc les actions, ce sont un peu des happenings, en fait, c'est des événements qui vont faire irruption dans le champ démocratique. Et sur la base de ces événements-là, on va pouvoir ensuite discuter, argumenter, se positionner.
Et tenter d'entraîner l'opinion et aussi le politique.
Exactement. Donc on a besoin de ça, mais ce n'est que le premier stade, ça ne suffit pas. L'activisme est un stade d'hypervigilance excessivement important en démocratie. On en a besoin tout du long. On le voit pour le droit des femmes, c'est aussi tout aussi important. Dès que cet activisme s'éteint, paf, on peut revenir en arrière très très vite. Donc on en a besoin tout le temps. Mais ce n'est pas suffisant, il faut d'autres leviers, d'autres choses, et on ne convainc pas toute une population entière avec simplement de l'activisme. évidemment. Donc il faut d'autres leviers. Et là-dessus, pour l'instant, c'est là qu'on a un petit souci, selon moi, qu'on doit encore boucher des trous, si j'ose dire.
Une dernière question, Albin Wagner. Ce que l'on comprend en lisant votre livre, c'est que chaque mot, chaque terme employé compte énormément. Et justement, dans les 229 pages de votre ouvrage, vous n'utilisez jamais le terme de climato-dénialiste ou climato-négationniste. En français, vous l'avez utilisé au cours de cette interview. Certains experts l'utilisent car ils estiment que le terme sceptique n'est pas assez fort. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix ?
Ah ben c'est tout simplement parce qu'au moment où j'ai rédigé le livre, et puis entre le moment où je l'ai rédigé et le moment où il est paru, le terme climato-dénialiste n'était pas autant installé en fait dans la sphère publique, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je pense que je l'aurais utilisé un petit peu différemment. Le scepticisme, c'est un cache-nez. C'est-à-dire qu'en fait, être sceptique, ce n'est pas forcément une mauvaise chose dans la vie quotidienne. On peut se dire, bon, ben je le doute, c'est bien aussi. On n'est pas obligé de croire tout le monde tout le temps. Mais là, effectivement, c'est donner une coloration très positive à quelque chose qui ne l'est pas. Et effectivement, il vaut mieux, je pense maintenant, là je vais être très très clair, je pense qu'il vaut mieux utiliser le terme climato-dénialiste, parce que c'est ce que c'est, hein, c'est du déni pur, plutôt que climato-sceptique, qui conserve encore une forme de, un peu positive de l'affaire, alors qu'en fait ça n'a rien de positif du tout.
D'où l'importance de bien nommer les choses. Merci Albin Wagner.
Merci beaucoup, merci à vous.
Je rappelle que vous êtes linguiste spécialisé en communication environnementale. Allez, cap maintenant sur les États-Unis où le sprint final de la course à la Maison-Blanche a officiellement commencé. Jusqu'ici, Donald Trump et Kamala Harris sont au coude à coude dans les sondages. Un scrutin serré dont l'intégrité est déjà remise en doute sur les réseaux sociaux. Bonjour Olivier Four.
Bonjour.
Une nouvelle vidéo a généré des millions de vues ces derniers jours. On y verrait un agent électoral de Pennsylvanie détruire des votes par correspondance favorable à Donald Trump. Une scène montée de toutes pièces et conçue selon les autorités américaines par la propagande pro-russe.
Oui, une énième tentative destinée à ruiner la confiance des électeurs américains, particulièrement ceux qui soutiennent Donald Trump, qui pensent volontiers que leur candidat est la cible d'un vaste complot destiné à empêcher son élection. La scène est censée se passer dans un bureau électoral de Pennsylvanie où sont collectés des bulletins de vote envoyés par courrier.
La Pennsylvanie, l'un des États indécis stratégiques qui pourrait faire basculer le scrutin.
Et on sait que c'est là-bas parce que si on fait un arrêt sur image, on distingue l'adresse du destinataire situé dans le comté de Bucks. C'est bien en Pennsylvanie. Et dans ce comté, le vote par anticipation est autorisé. Mais attention, l'ouverture de ces bulletins n'est possible que le jour même du scrutin. Pas avant, c'est la règle.
Sauf qu'Olivier, sur cette vidéo, on voit un prétendu agent administratif se débarrasser des votes favorables à Trump.
Voilà, il fait le tri, il ouvre les enveloppes, il déchire les bulletins républicains et il conserve les bulletins démocrates. La vidéo est partie de la sphère complotiste américaine. Elle devient virale très rapidement. Plusieurs millions de vues, avec des commentaires laissant penser que l'élection est truquée et que les démocrates sont des tricheurs.
Alors vous avez mené l'enquête, vous avez vérifié, ce que l'on voit à l'image n'est pas conforme à la réalité.
Oui, l'enveloppe qui apparaît à l'écran n'est pas de la bonne couleur, l'enveloppe intérieure destinée à garantir la confidentialité du vote n'est pas scellée, or ça devrait être le cas, et les mains que l'on voit à l'image ainsi que la voix que l'on entend, ne correspondent à aucun employé du bureau électoral, précise le 24 octobre le comté de Bucks dans un communiqué officiel.
Et d'ailleurs, il y a eu depuis une avalanche de réactions.
Oui, le bureau électoral du comté de Bucks écrit, je cite, « Ce type de comportement vise à semer la division et la méfiance envers nos systèmes électoraux. Les républicains aussi ont dénoncé une infox et une enquête a été ouverte par la justice. »
Et l'affaire est même remontée jusqu'au bureau du directeur du renseignement des États-Unis.
Oui, l'ODNI et le FBI, l'agence américaine pour la cybersécurité, ont signé tous ensemble le 25 octobre un communiqué conjoint extrêmement clair, pointant nommément la responsabilité de la Russie dans la création et la diffusion de cette vidéo. Pour sa part, la cellule InfoVérif de RFI avait déjà identifié plusieurs comptes connus comme des vecteurs de la désinformation russe ayant précisément repris cette info. Et en septembre, nous vous parlions ici même d'un autre cas très similaire finalement, ayant alerté aussi les autorités américaines. Une fausse interview d'une prétendue victime d'un accident de la route impliquant la candidate démocrate Kamala Harris. Le discours, le décor, la victime en fauteuil roulant. Tout avait été créé de toutes pièces.
Une manipulation de plus. Merci Olivier Four. Votre travail avec tous les liens et les illustrations qui vont bien sont à retrouver sur notre site rfi.fr. L'élection américaine sous le feu de la désinformation poussée notamment par un certain Elon Musk. Le propriétaire du réseau social X, soutien majeur du candidat Trump, est devenu ces derniers mois un important propagateur d'Infox. Bonjour Quangfam.
Bonjour.
Journaliste aux Observateurs de France 24, vous avez fait les comptes. Sur le mois d'octobre, sur uniquement le mois d'octobre, Elon Musk a relayé près d'une trentaine de posts faux ou trompeurs, vus des centaines de millions de fois.
Oui, sur le seul mois d'octobre, Elon Musk a publié 28 posts partageant des intox sur sa plateforme X. On parle ici d'intox sur une variété de sujets et dont le contenu a été systématiquement et formellement démenti par des médias de vérification. Mais au-delà de leur nombre, ce qui frappe, c'est la viralité de ces intox. Selon notre décompte, au 30 octobre, ces 28 posts ont cumulé au total 540 millions de vues sur le réseau social.
Alors comment expliquer cette viralité ?
Les tweets d'Elon Musk bénéficient d'une portée amplifiée, comme l'ont rapporté plusieurs médias. L'algorithme de X diffuse en priorité les posts du milliardaire. Rappelons que Musk est aussi suivi par plus de 200 millions d'abonnés. C'est plus que le nombre d'abonnés de grands chefs d'État comme Barack Obama ou Donald Trump.
Et selon votre enquête, les intox poussés par Musk se concentrent sur des questions centrales dans cette campagne.
Oui, un de ses sujets de prédilection, c'est l'immigration illégale aux États-Unis, qui est aussi un des chevaux de bataille de Trump. En un mois, sur les 28 intox relayés par Musk, on compte 12 posts faux ou trompeurs à ce sujet, qui ont récolté 280 millions de vues selon notre décompte. Parmi ces intox, Elon Musk avance la théorie d'un grand remplacement électoral. Les démocrates favoriseraient l'arrivée des migrants, plus à même de voter pour leur parti, afin de les aider à remporter les élections dans des États auparavant républicains.
Oui, on le sait aussi, Musk a tout comme Trump une dent contre les médias dits traditionnels.
Oui, il les accuse à tort et à travers de véhiculer un discours trompeur. En début de semaine, il a accusé à tort le magazine The Atlantic d'avoir publié un article intitulé « Trump est littéralement Hitler, image à l'appui ». À tort, car cette image était fausse et le média n'avait en réalité jamais publié un tel titre. The Atlantic a même dû publier un démenti.
Une autre thématique Quang récente poussée par Musk sur X, c'est la fraude électorale.
Oui, avec la fraude électorale, Musk ne fait finalement que reprendre une vieille accusation du camp Trump, qui vise à semer le doute sur les résultats futurs de l'élection présidentielle américaine. Une des dernières intox en date à ce sujet, le 20 octobre, Elon Musk a soutenu que l'élection dans l'état clé du Michigan pourrait être la cible d'une fraude. La raison ? L'État compte dans ses registres plus de votants enregistrés que d'électeurs en âge de voter.
Sauf que ces éléments sont en réalité bien connus des autorités et ne sont pas cachés.
Le nombre de votants enregistrés correspond en fait à un total qui comprend des électeurs inactifs, comme des personnes décédées ou qui ont déménagé. Des personnes qui seront radiées des listes dans les prochaines années, comme l'a vérifié la rédaction des Observateurs.
Merci Quangfam pour votre travail. Pour en savoir plus sur votre enquête, rendez-vous sur le site des Observateurs de France 24. Les Dessous de l'Infox, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver en ligne en tapant RFI InfoVérif dans un moteur de recherche. Merci à notre invité, à nos chroniqueurs et à Claude Battista à la réalisation de cette émission. Dans deux minutes, un nouveau journal vous attend sur RFI.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale.
RFI, 18h58 ici à Paris. RFI Soir, ça se poursuit dans une trentaine de minutes sur la radio du monde. La première édition d'Afrique Soir, c'est avec vous, Pierre Boudias, bonsoir.
Bonsoir Nemo, bonsoir à tous.
Et Pierre, ce vendredi, vous nous emmenez du côté de l'Éthiopie.
Et plus précisément à Addis Abeba, la capitale éthiopienne qui résonne du bruit des pelleteuses ces dernières années. Le premier ministre Abiy Ahmed a lancé de grands travaux pour moderniser la métropole, mais élargir les rues à un coup. De nombreux quartiers ont été rasés, parmi eux de hauts lieux de la culture. Nous irons vivre ensemble les dernières heures de Fenedika, un chant du cygne entre fête et nostalgie. Une rencontre également à retrouver dans Afrique Soir. Elle s'appelle Sarah Perez, mais vous pouvez l'appeler Sarou. Cette jeune artiste tunisienne s'est donnée pour mission de remettre au goût du jour les chansons du répertoire juif du pays. Un défi musical, mais aussi politique pour celle qui veut lutter contre les divisions. Notre correspondante Amira Souilem lui est allée recueillir sa parole.
Et nous serons donc à Tunis dans la première édition d'Afrique Soir. À tout à l'heure, Pierre, 18h59 ici à Paris. Dans une petite minute, le retour de l'actualité internationale. Nous serons avec Mayol de Charon. Il sera 18h en temps universel. Et après ce journal, le journal des sports, le reportage international également sur les élections aux États-Unis, vue d'Haïti. À tout de suite.